J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à fêter la nouvelle année 2013. Ce sera certainement une meilleure année puisque, avec le Seigneur, le bon vin est pour la fin. Donc, l'avenir est avec Dieu, il est toujours meilleur. Le monde nous fait croire qu'avant c'était mieux. On a retrouvé un texte du temps des Égyptiens avant le Christ, dans lequel on dit « Oh, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Il n'y a plus de respect. » Et ainsi de suite. Et c'est des refrains qu'on entend aujourd'hui. « Oh là là, avant c'était mieux. » Puis vous verrez, quand vous serez grands-parents, vous aurez aussi cette tentation de dire « Ah, de mon temps, c'était quand même pas pareil. » Au moins, à l'abbaye d'Ourscan, il y avait du feu dans la cheminée. Voilà. Et donc, on a tous nos petits regrets d'avant, et voilà, on voit ce qui va mal aujourd'hui, et on tombe dans le piège de croire qu'avant, c'était mieux. Or, avec Dieu, c'est aujourd'hui qui est extraordinaire, et demain qui sera encore mieux. Donc, n'ayez aucune crainte pour 2013. Ce sera une année de combat, comme d'habitude. Mais puisqu'on se convertit, et puisqu'on accueille l'Esprit Saint, et puisqu'on aura fait ensemble cette retraite, eh ben on sera mieux équipés. Voilà. Donc ce sera une bonne année, j'en suis sûr. Le combat. Ben oui. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas un parc d'attractions, avec sa montagne russe, son parc Astérisk. La vie n'est pas un jeu de loisirs. La vie est un combat. J'ai entendu ça de la bouche d'un prêtre quand j'étais séminariste, et j'avoue que ça m'a beaucoup libéré, ça m'a mis à l'aise. Je me suis dit, ben, il a bien raison. Voilà. J'ai déjà cité cette parole du psaume 26. Espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Vas-y. Espère dans le Seigneur, non pas dans tes propres forces. Vas-y. C'est le dernier verset du psaume 26-27. Espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Ou alors dans le livre des rois, « Sois fort, montre-toi un homme. » Alors on pourrait dire « montre-toi une femme. » Parce que, voilà, la force n'est pas réservée aux hommes. C'est aussi un piège de croire que la force musculaire donne un avantage dans le combat. Il ne s'agit pas d'un combat gladiateur. Il s'agit d'un combat spirituel. Et donc, mesdames, vous êtes aussi bien équipées que nous. Peut-être même mieux. Bon, mais tout dépend de notre attachement au Seigneur, au Christ. Parce que c'est lui qui se bat le premier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà gagné la victoire. Sur la croix. Un jour, un prêtre qui prêchait une retraite dans... une session œcuménique, charismatique, disait, mais c'est quand même incroyable à la messe, quand on arrive à la doxologie, vous savez, la fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de l'Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et là, l'Assemblée répond, Amen. Alors qu'elle devrait sauter, être debout sur les chaises dans l'église pour dire « Ouais, il a gagné !» C'est le but décisif après les prolongations. Jésus a gagné définitivement contre Satan, contre le mal, contre la mort. La victoire est gagnée. Le combat est gagné. Donc si je suis attaché au Seigneur Jésus-Christ, à sa croix, j'ai la victoire. Ensuite, j'atterris dans mon quotidien. Et là, il faut que je vive moi-même ce combat au quotidien, en sachant que Jésus a gagné le combat. Donc c'est une aide précieuse. Peut-être que certains jours, on dira, enfin bon, Jésus, si vraiment tu avais gagné, moi aussi j'aurais gagné. Là, je commence à... Ça dure un peu trop, là, ce combat. Alors, comment Jésus s'est-il battu? C'est quand même éclairant d'aller voir dans l'Évangile comment ça s'est passé pour Jésus. Voilà, parce que notre modèle, c'est lui. Alors, je vais voir dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, les tentations au désert. Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 11. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au désert. Moi, j'ai eu cette chance de le vivre en Terre Sainte, dans le Haut-Gard, sur les pas de Charles de Foucault, et encore cette année en Tunisie. Bon, le désert, pour y aller, il faut le vouloir. Hein. Ce n'est pas un lieu où on va faire ses courses. C'est un lieu aride, on le sait. C'est un lieu où il n'est pas facile de vivre, il faut le savoir. Dans le train, l'autre jour, je voyais un gars qui avait... Vous savez, il y a beaucoup de gens maintenant dans le train, ils ont leur ordinateur portable, puis ils regardent un film. Et alors lui, c'était survival, je ne sais pas quoi. Et donc c'est un gars, il est dans le désert, il n'a rien, il a juste un couteau, il a un chèche. Et il part comme ça et il survit dans le désert. Alors quand il croise le moindre scorpion ou la bête, il la mange. J'ai même vu qu'il a tué un chameau, il est rentré dans le chameau pour aller chercher la bosse pleine d'eau, puis... Là, il boit, enfin bref, c'est le héros, quoi. Franchement, le gars, il part dans le désert, il n'a rien, il survit, parce que de fait, dans le désert, il y a de la vie et il y a ce qu'il faut, en fait. Mais il faut connaître. Mais vous savez peut-être aussi que le désert, c'est dans nos villes. Paris, c'est un peu un désert hein, spirituel. Il y a des églises. Mais bon... Si les fraternités monastiques de Jérusalem se sont installées dans les grandes villes, c'est parce que leur fondateur, le père Delphieux, a eu l'intuition, lui qui voulait aller au désert, il a compris que les grandes villes d'aujourd'hui sont des déserts, dans lesquels il est important d'être présent. Et que si Charles de Foucault a une belle intuition en allant, lui, dans le désert, auprès de ceux qui étaient le plus loin de la foi chrétienne, les Touaregs, pour vivre avec eux, c'est une belle intuition, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi des déserts dans nos villes. Ce qui m'intéresse dans l'Évangile, c'est qu'au premier verset, on nous dit que Jésus n'est pas allé dans le désert avec Bipèle ou avec Ictus ou, voilà, Terre des Hommes. Il y est allé poussé par l'Esprit. Tiens donc, c'est l'Esprit Saint qui pousse Jésus au désert. Nous, on aurait dit, c'est une erreur de parcours, il a fait ça pour se tester, mais c'est pas une direction spirituelle. Eh bien, si. C'est l'Esprit Saint qui pousse Jésus au désert. Ça veut dire que quand parfois dans ma vie, je rencontre moi aussi des déserts, des temps de sécheresse, des choses qui me paraissent humainement difficiles, pénibles, comme quand on marche dans le désert, moi, je peux vous dire, il y a des jours, c'est pénible. Il y a une journée entière, j'ai marché accroché à côté d'un chameau parce que physiquement, je commençais à peiner, vraiment. Puis la chaleur, on se dit, voilà, il ne pourrait pas y avoir quelques nuages. Eh bien, ne croyons pas que c'est parce que Dieu se retire. Au contraire, c'est peut-être bien l'Esprit de Dieu qui est en train de me pousser pour dire, Emmanuel, tiens donc, va donc un peu au désert, ça va te faire du bien, tu vas maigrir un petit peu, tu vas te débarrasser de tout ce qui t'encombre. Pendant une semaine, tu n'auras pas ton téléphone ni ton petit ordinateur. Voilà, tu vas être toi-même. Allez, vas-y, va au désert, ça va te faire du bien. Ça va te faire du mal, au sens où tu vas éprouver la chaleur et la soif, mais ça va te faire du bien. Donc c'est bien l'Esprit qui pousse Jésus au désert. 40 jours, 40 nuits, c'est un chiffre clé dans la Bible, ça veut dire que c'est un long temps. Jésus n'avait pas un compteur dans la main pour dire 1, 2, 3, 4, 40. Voilà. Bibliquement, ça veut dire il a passé un long temps au désert, puis 40 jours, ça fait penser forcément à... Allô ? Ah, les 40 voleurs d'un... Pas mal. On ne l'avait jamais fait, celle-là. Les 40 jours de Jésus dans le désert, ça nous fait penser au... Oui, au carême. Et donc, Exode. Non, c'est pas Alibaba qui fait l'Exode. Voilà, 40 années dans le désert du peuple hébreu à la sortie d'Égypte. C'est quand même la référence majeure de tout l'Ancien Testament, du chiffre 40. Donc Jésus s'inscrit dans la tradition, dans l'histoire de son peuple. Voilà, le simple fait qu'un juif entende 40 jours dans le désert, tout de suite, immédiatement, il pense aux 40 ans dans le désert. Effectivement, pour nous, c'est le carême qu'on revit chaque année. Sans manger, après quoi il eut faim. Vous connaissez l'histoire de Marthe Robin. Elle est restée 50 ans sans manger autre chose que l'Eucharistie quotidienne. Cette femme a vécu quelque chose de l'ordre d'un combat et d'une union étonnamment proche avec le Christ dans sa passion. Chaque semaine, elle revivait la passion. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, et c'est elle qui a fondé les foyers de charité. Jésus, forcément, après avoir jeûné, il a faim. Et c'est justement là que Satan vient le tenter. Hein, dis donc, t'as faim. Tiens donc, regarde. Vas-y, t'es le fils de Dieu. Vas-y, change ces pierres en pain. Montre ta force. Sois un petit peu magicien. Fais-nous un petit miracle. Allez, t'es le fils de Dieu. Et comment Jésus résiste-t-il? Comment Jésus combat-t-il face à cette suggestion auquel il aurait pu céder en disant c'est vrai que j'ai faim, ce serait quand même sympa, allez, je suis Dieu, je pourrais, allez, hop, comme ça je vais pouvoir manger, puisque j'ai faim. Eh bien non, Jésus sait qui est en face de lui. Et donc, il résiste et il s'appuie sur l'Écriture. Jésus connaît mieux que quiconque l'Ancien Testament. Et il puise dans l'Ancien Testament ce dont il a besoin pour combattre ces suggestions, ces tentations qui viennent de Satan. Jésus lui répond, il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, même quand il a faim, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans l'Écriture que Jésus trouve l'inspiration. Vous voyez son humilité. Il ne dit pas, ouais, c'est bon, je maîtrise. Ouais, Satan, je vais y arriver. Jésus s'appuie sur ce qu'ont écrit d'autres que lui dans l'Ancien Testament. C'est comme si Jésus accueillait un conseil, vous voyez. C'est pas lui qui a écrit l'Ancien Testament. Mais il s'appuie sur cette écriture parce qu'il a appris, comme tous les enfants de son âge et les ados, la Torah. Et il l'a répété, ruminé, il l'a prié, et donc il la connaît. Est-ce que nous connaissons l'Ancien Testament? Même moi, j'avoue que j'ai encore des progrès à faire. On a souvent un Nouveau Testament dans sa poche, mais est-ce qu'on connaît l'Ancien Testament? Je pense qu'on a des progrès à faire. Alors là, Jésus est à faim. Permettez-moi de faire un saut à la croix. Sur la croix, Jésus a soif. Dans l'évangile selon saint Jean, Jésus dit « j'ai soif ». Alors, dans un évangile, on lui apporte une éponge de vinaigre, il en prend. Puis dans un autre, on lui apporte une éponge avec un mélange de boissons sucrées, puis il n'en prend pas. Enfin bon, donc il y a plusieurs versions. C'est pas grave. En tout cas, Jésus sur la croix dit « j'ai soif ». Mais il n'a pas seulement soif d'eau, il a soif de notre amour, il a soif de notre foi, il a soif de notre vie, de notre adoration. Donc Jésus a faim et soif, mais pas seulement de pain et de vin. Et voilà. C'est vrai que notre appétit peut parfois nous dévorer. Et est-ce qu'on est... on a à nous battre parfois contre des règles sociales qui font qu'il faut manger 3 fois par jour. J'ai un de mes amis prêtres, malheureusement, qui est mort l'an dernier, en train de faire des études, originaire de République démocratique du Congo, et qui m'a souvent dit, je sais que dans mon pays, il y a des gens, ils mangent 1 fois par jour. Et moi, ici, en France, je peux manger 3 fois par jour. Et pour lui, c'était un aiguillon. Et puis, un jour, je devais l'accompagner... Je devais l'accompagner pour qu'il aille chercher ses affaires, puisqu'il était arrivé dans notre paroisse comme vicaire, étudiant. Et puis finalement, on décide d'y aller le dimanche après la messe. Alors moi, en bon français, je dis après la messe, d'abord on va manger, puis après on partira. Puis non, on y va tout de suite. Bon. Alors, comme il n'avait pas de voiture, puis que c'est moi qui devais le prendre, de fait, j'ai dit, tant pis. Et vous voyez, je me suis rendu compte que j'avais du mal, moi, petit Français, habitué au repas traditionnel du dimanche, forcément, repas familial, famille de 7 enfants, c'était le rendez-vous, quand même, du dimanche. J'avais eu du mal à sauter un repas, alors que pour lui, ça posait aucune question. Il était plus libre que moi sur ce plan-là. Et voyez, on est un peu... Est-ce qu'on est libre, nous, de nos invitations à dîner? C'est midi, il faut que j'aille manger. Oui. Bon, bref. Il y a une question qui se pose pour nous sur notre liberté par rapport à la nourriture et à la boisson. Et donc c'est un des combats qu'on a à mener, c'est pas le seul. Il y en a d'autres. Deuxième tentation de Jésus au désert. Le diable l'emmène à la ville sainte et le dépose sur le rempart du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, tiens donc, il est rusé le malin. Puisque Jésus a cité l'Écriture, eh bien, le malin, il va chercher aussi l'Écriture. Il est rusé, très rusé. Voilà que c'est Satan lui-même qui cite l'Écriture. Il en connaît un rayon. Satan est capable de citer l'Écriture à Jésus. Et donc, il lui dit, ben oui, il est écrit, il a donné pour toi un ordre à ses anges, de leurs mains ils te tiendront, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. C'est vrai, c'est dans un psaume, le psaume 90, 91. C'est vrai, c'est écrit. Mais comment faut-il le comprendre? Et là, Satan, il interprète un verset de l'Écriture dans un sens tordu. Pour encourager Jésus à jouer avec Dieu. Ah, t'as dit ça? Eh bien, on va vérifier. Hop, je me jette du haut du temple et on va bien voir si tu fais vraiment ce que t'as dit. C'est de la provoque. Et là encore, Jésus répond à Satan en citant lui aussi l'Écriture. Tu ne mettras pas au défi le Seigneur ton Dieu. Quelqu'un peut très bien vous citer l'Écriture pour vous convaincre de faire telle ou telle chose. Eh bien, il ne suffit pas de citer l'Écriture pour emporter le morceau. La lettre tue, c'est l'esprit qui fait vivre. Attention à ceux qui s'arc-boutent sur un verset de l'Écriture pour défendre telle ou telle position. Parce que dans l'Écriture, il y en a des centaines de milliers de versets, de SMS. Jésus n'a rien écrit. Il savait sans doute que s'il écrivait quelque chose, les apôtres auraient dit « Ah, regardez, c'est Jésus qui a écrit. C'est ça qu'il faut faire. » Jésus s'en est remis à la mémoire de ses disciples. Et il leur a dit « Vous inquiétez pas, bientôt je ne serai plus avec vous, mais l'Esprit Saint viendra et vous permettra de vous souvenir de tout ce que je vous ai dit, non pas de tout ce que je vous ai écrit, mais de tout ce que je vous ai dit. » Donc attention à notre manière de parfois citer l'Écriture de manière trop rigide, dans une interprétation qui demande à être vérifiée. Donc vous voyez qu'il faut se battre aussi contre certaines interprétations de l'Écriture. Parce que Satan se faufile partout, même dans l'Église, même dans ma vie. Ce n'est pas un hasard si c'est le serpent. Le serpent, il se faufile partout. Il peut se cacher derrière une pierre. Oui, donc même dans l'Église, il faut se battre contre les mauvaises interprétations de l'Écriture. Permettez-moi de faire encore un saut à la croix. Je reste dans l'évangile de Matthieu. Et que se passe-t-il sur la croix? Matthieu 27, 35 et suivant, 39 plutôt, ceux qui passaient l'insultaient. Il hochait la tête et disait, c'est toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours? Sauve-toi donc, puisque tu es fils de Dieu, descends de ta croix. Encore une provocation. C'est comme un parallèle des tentations au désert. Si tu es fils de Dieu, ben vas-y, dégaine, montre ta force, allez, descends de ta croix, fais-nous un petit miracle. On aimerait, allez Dieu, vas-y, guéris mon frère. Guéris mon oncle qui a atteint du cancer. fais-nous un petit miracle, quoi. Souvent, nous-mêmes, on provoque Dieu. Alors, ça part toujours d'un bon sentiment. Toujours. Parce que souhaiter la guérison d'un enfant, c'est un bon sentiment. Mais il faut reconnaître qu'on est en train de tenter Dieu lui-même. On voudrait qu'il montre sa puissance, qu'il nous fasse un miracle sur notre ordre à nous. Et donc, on se prend pour Dieu. Donc, il faut se battre aussi contre ça, contre notre tentation de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Combien de fois dans l'Évangile, certains arrivent à Jésus en disant « Fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça. » Alors, celui qui a gagné le morceau, c'est un centurion romain qui a touché Jésus par sa foi. Et de fait, il a obtenu la guérison de son serviteur, ou de son fils, ça dépend de l'Évangile. Il a obtenu la guérison de son serviteur parce que Jésus a reconnu chez cet homme une foi comme jamais il avait vu en Israël. Un païen, un romain, un idolâtre, quelqu'un qui adorait l'empereur, vient voir Jésus. Ça veut dire qu'il est déjà un peu converti puisqu'il s'adresse à Jésus. Il est donc déjà un peu chrétien. Et il demande à Jésus, « S'il te plaît, viens guérir mon serviteur. » Et puis tu vois, moi je sais que je suis dans l'armée, donc je dis à l'un fais ci, à l'autre fais ça, il le fait. Je sais, Jésus, que toi, tu peux faire la même chose. Voilà. Cette demande a été faite avec foi. Donc sans doute qu'il faut nous battre contre nos manques de foi. Dernière tentation. Une fois encore, le diable l'emmène à une très haute montagne et lui montre toutes les nations du monde dans toute leur splendeur. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour m'adorer. » Question de l'idolâtrie. C'est curieux quand même que Satan veuille prendre la place de Dieu. Vizir à la place du vizir. Is no good. Quel est, dans l'Évangile, l'adversaire principal de Dieu qui risque de lui prendre sa place, d'après Jésus? C'est l'argent. Jésus est très clair. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il faut faire un choix. Et la situation économique mondiale actuelle le montre de manière flagrante. Et ce n'est pas la première fois. On joue avec le feu. Comment se fait-il que ceux qui ont déjà de l'argent en veulent encore plus? L'argent exerce une fascination, un pouvoir. Et des gens finissent par adorer l'argent. Ça veut dire, on le met à la première place. C'est à lui qu'on pense en se levant le matin. C'est pour lui qu'on travaille dans la journée. C'est à lui qu'on pense le soir parce qu'on en a gagné. C'est à lui qu'on pense le lendemain parce qu'on en a perdu. L'argent devient Dieu. Celui qui est puissant, avec l'argent, on peut tout faire. Mais que de dégâts. Alors, il nous faut nous battre contre le pouvoir de l'argent. Quelle est ma liberté par rapport à l'argent? J'ai rencontré un monsieur qui est venu me voir, il voulait que je témoigne dans le cas, dans son divorce. C'était un divorce violent. Et de fait, je connaissais son épouse, lui non. Donc il vient me voir, il me dit, j'ai besoin de votre témoignage. Aujourd'hui, ça se passe comme ça, un divorce. On choisit un avocat, chacun de son côté, Et puis chaque avocat demande à son plaignant d'accumuler le maximum de témoignages pour que la pile de témoignages écrits soit haute comme ça. Et ensuite, on compare les piles de témoignages, on dit « Ah, il y en a plus de ce côté-là que de ce côté-là. » C'est une guerre de papier, c'est une guerre de témoignages, c'est une accumulation des fautes, c'est un théâtre d'accusation. C'est diabolique. J'ai refusé de donner mon témoignage pour ne pas rentrer dans ce jeu. Mais ce n'est pas pour ça que je vous en parle. Cet homme, au bout du compte, il est revenu plusieurs fois, a fini par m'avouer qu'en fait, il avait eu tort d'accepter un travail à Roissy qui lui a permis de gagner 4000 euros par mois et que ça a détruit sa vie familiale. Ça nous guette tous. Quelle situation professionnelle est-ce que j'accepte? Quel salaire est-ce que je convoite? Quelle est la place de l'argent dans ma vie familiale, conjugale, amicale? Quand l'argent devient le centre de tout, il prend la place de Dieu. Si je suis chrétien, celui qui a la première place, ça doit être Jésus. Et là, il faut se battre. Parce que dans le monde actuel, il y a tellement de sollicitations que Jésus, on finit par lui dire, écoute, me dérange pas trop. Déjà, je vais un peu de temps en temps à la messe. Je te dis un chapelet une fois de temps en temps. S'il te plaît, m'en demande pas trop. Regarde, j'ai mon boulot, c'est sérieux. Il faut que j'aille bien dire bonjour à mes parents, c'est sérieux. Mais m'en demande pas trop. Dieu est Dieu. Il mérite qu'on lui donne la première place. Et c'est lui qui nous met de l'ordre dans notre vie. Vous connaissez l'histoire de ce fameux saladier dans lequel il faut mettre des pierres. Alors on le remplit de pierres. On dit, alors est-ce qu'il y a encore de la place ou pas? Ben on dit non, ben non, on a mis plein de pierres, on ne peut plus. Alors on sort des graviers, puis on secoue, on met des graviers, puis on secoue. Oh, ah, c'est plein de graviers. Alors on peut encore remplir ou pas? Ben non, c'est plein. Eh ben si, on sort du sable, et puis là on met du sable, et puis on secoue. Puis, alors on peut encore remplir ou pas? Oui, on met de l'eau. Et l'eau, doucement, on la verse, et elle s'infiltre dans l'ensemble. Mais si on fait l'inverse, si on met d'abord l'eau, le sable, le gravier, ben les pierres, elles tiendront jamais dedans. Ça déborde. Ben oui, mais c'est ce qu'on fait. Les choses futiles, fluides, on se jette dessus. Moi-même, il faut que je fasse attention. Avec mon petit ordinateur et mon téléphone, il faut que je fasse attention. Ça me guette aussi. Mais n'empêche que dans le monde d'aujourd'hui, c'est flagrant. Tout ce qui est futile, rapide, hop, 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 on y va. Et puis ce qui est capital, eh ben, on le met en dernier. Ça ne rentre pas, forcément. On le met en dernier. Donc Dieu, Jésus, la prière, c'est first in my life. C'est la première chose à mettre le matin. Le reste, ça rentrera. Ah, il y a le Seigneur, il y a le gravier. Ça rentrera. Si tu mets d'abord la pierre, ça rentrera. Donc combattons la dispersion, la futilité, les choses accessoires. Alors, pour terminer, j'évoque avec vous un autre passage de l'Écriture, Éphésiens 6, 10 à 17. À part cela, devenez fort dans le Seigneur grâce à sa force et sa puissance. Donc on est d'accord, la force, c'est la force de... Allô? La force de l'Esprit Saint. Souvenez-vous, hier, un des sept dons de l'esprit, c'est la force. Donc soyez forts ou devenez forts. Portez sur vous, donc Éphésiens 6, 10 hein, et suivant. Portez sur vous toutes les armes de Dieu. Oh là là, il va nous donner une panoplie, vous allez voir, on va être bien équipés. De façon à repousser toutes les attaques du diable. Donc vous avez compris à travers mon propos que je crois vraiment que le diable existe. Hein. Voilà, certains, enfin lui-même le premier, veut faire croire qu'il n'existe pas. Ça c'est une ruse du démon. Soit c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas, soit c'est de nous faire croire qu'il est partout. Là, il ne faut pas pousser quand même. Le diable existe. Mais Jésus est plus fort. Donc ça va? Même pas peur. Car nos ennemis ne sont pas de chair et de sang, ce sont les principautés, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, les forces spirituelles mauvaises du monde supérieur. Si Pierre, le premier des apôtres, s'est fait traiter par Jésus de Satan, alors moi aussi, Jésus, pourrait me traiter, me dire Emmanuel, Satan, au moment où je m'oppose à la croix, au moment où je m'oppose à la passion. Parce que c'est à ce moment-là que Jésus a traité Pierre de Satan. Il ne lui a pas dit ça tous les jours. Il lui a dit un jour, quand Jésus marche vers Jérusalem, c'est son dernier pèlerinage, il sait très bien que ça va mal se terminer, il annonce clairement la couleur à ses associés en leur disant, ben, vous savez, les amis, ça ne va pas être facile, le Fils de l'homme va souffrir, il va être tué. Donc c'est un faire-part de décès. Jésus annonce qu'il va mourir. Et Pierre réagit en disant, oh, écoute, non Jésus, non, excuse-moi, t'es tellement sympathique, t'es formidable, attends, tu vas pas mourir. Non, pas ça. Ça vient pas de Dieu, ça. Et là, Jésus est clair et net. Il aime Pierre, mais il aime pas les propos de Pierre. Il aime pas son raisonnement trop humain. Il aime pas son raisonnement qui veut chasser toute perspective de difficulté ou de souffrance. Alors il dit à Pierre, Satan, derrière moi. Il ne chasse pas Pierre hein, en disant, dégage, non. Jamais Jésus ne dit à quelqu'un, dégage. Il lui dit, derrière moi. Derrière. Ne te mets pas devant, en face de moi, pour m'empêcher d'avancer. Derrière. Allez. Mets-toi derrière moi pour me suivre, y compris quand je prends la direction du désert, y compris quand je prends la direction de Jérusalem. Suis-moi. Et là, il faut se battre contre notre prétention parfois à dicter à Jésus ce qu'il doit faire. Il faut nous battre contre notre difficulté à obéir, à suivre Jésus. Ce n'est pas lui qui doit nous suivre, c'est moi qui dois le suivre. Et comment le suivre si je ne lis pas son évangile, si je ne fréquente pas la communauté qui se réclame de lui? Ayez donc toutes les armes de Dieu de façon à résister dans les jours difficiles et à défendre votre terrain par tous les moyens. Vous tiendrez bon si vous avez. On y va pour la panoplie. Vous êtes prêts? Verset 14. La vérité pour ceinturon. Pas la peine de noter, vous retrouvez ça dans votre Bible. La droiture pour cuirasse. Soyez bien chaussés, pas d'escarpins. Ça, c'est moi qui rajoute. Préparez les chemins pour l'évangile de la paix. Ne lâchez jamais le bouclier de la foi. C'est un bouclier, la foi. Avec lesquels vous éteindrez les flèches incendiaires du mauvais. Portez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et je termine par là. Retenez une chose ce matin. Vous pouvez oublier tout le reste, mais retenez une chose. C'est que l'arme principale du combat, c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est bien la parole de Dieu que Jésus a citée au désert. Conclusion, il faut me battre contre ma propre ignorance de la parole de Dieu. Quel temps suis-je prêt à consacrer chaque jour que Dieu fait? Parce que ça peut être le dernier, vous savez. Mon ami prêtre, il est mort à 49 ans. Moi, je peux mourir demain. Qui d'entre nous connaît le jour de sa mort? Personne. Charles de Foucault disait, il faudrait qu'on vive chaque journée comme si c'était la dernière. Comme si ce soir, j'allais mourir martyr. Bon, alors moi, je n'ai pas une vocation au martyr, hein, je vous rassure. J'avoue que je ne sais pas du tout comment je me comporterais si vraiment j'étais persécuté. Bon, mais n'empêche que j'entends cette invitation à vivre la journée d'aujourd'hui comme si c'était la dernière. Et vous verrez, si vous essayez, eh ben, on est comme tout à fait libre parce qu'on goûte pleinement l'heure et le jour qui nous sont donnés comme un cadeau. Demain, on verra bien si on se réveille. Ça n'empêche pas de faire des projets. Mais aujourd'hui, Dieu est là, aujourd'hui. Donc l'épée de l'arme principale du combat que nous avons à mener, c'est l'épée de l'esprit. Pourquoi une épée? Parce qu'une épée a deux tranchants. Je peux vous dire que n'importe quel steak ne lui résiste pas. Vous pouvez découper une volaille, un sanglier avec une épée à deux tranchants. Vous réussirez à avoir tous les morceaux à séparer, les entrailles, le foie, le cœur, tout ça. Vous pouvez disséquer. Eh bien, l'épée de l'esprit, il vient disséquer quoi? Il vient disséquer mon cœur. Parce que c'est dans mon cœur qu'il faut que j'arrive à séparer le bien et le mal. C'est dans mon cœur qu'il faut que j'arrive à déceler dans quel interstice le serpent s'est faufilé et qu'il est là, caché, et qu'il me susurre des propos qui font croire que c'est Dieu qui me parle, et puis en fait, c'est le serpent qui me parle, comme dans la Genèse. Alors Ève, il paraît que Dieu il vous a dit que vous devez manger aucun arbre du jardin. C'est exactement l'inverse que Dieu a dit. Il est rusé, le serpent. Et du coup, Ève, elle mélange tout. En fait, il a dit qu'on... Puis elle se trompe dans sa réponse. Voilà, donc l'arme principale du combat que nous avons à mener, c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Aimez, désirez la parole de Dieu. Ayez faim et soif de la parole de Dieu. Ayons... Il faut que moi-même, je fasse très attention que dans mes journées, je garde un temps suffisant pour moi-même écouter la parole de Dieu. Sinon, je raconte que du vent. Voilà. Alors, je n'ai pas trop préparé de questions. Courage. Bon combat, et vous avez compris, c'est le combat de la foi. Je pense que la question principale, je vous l'ai déjà posée, c'est quel temps suis-je prêt à consacrer chaque jour pour me mettre à l'écoute de la parole de Dieu? Pour un chrétien, je crois que c'est la question fondamentale. Et si je mène ce combat-là, donc acceptez que ce soit un combat, vous n'allez pas gagner demain parce que vous direz « Yes, je reviens d'Ourscan, c'est bon, je maîtrise, j'ai mes topos, j'ai même mon petit carnet sous ma lampe de chevet ». Vous verrez que dans 6 mois, il n'a pas bougé le carnet. Parce que vous allez être rattrapé par votre vie quotidienne. Acceptez que ce soit un combat. Et donc un combat, il faut se battre un peu tous les jours. Et parfois on gagne, puis parfois on perd, mais quand même, globalement, vous savez, vous avez compris, on a gagné si vous restez attaché à Jésus. Parce que c'est lui qui a gagné. Amen. Alléluia.